Et effectivement, de noter quels sont les traitements qui seront pris en charge dans ce cadre-là. À l'heure actuelle, il y a certaines opérations qui ne sont pas mentionnées. Il y a certains soins qui ne sont pas mentionnés.
Voilà.
Il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Par exemple, l'épilation laser a été ajoutée. Donc c'est très bien, mais on se rend compte qu'il y a des soins qui ne sont pas pris, enfin, sont pas mentionnés. Alors en même temps, c'est peut-être pas plus mal parce que ça laisse une certaine porte de sortie, on va dire, pour ceux qui ne sont pas mentionnés. Mais pour les autres, ça va bloquer beaucoup de choses. Bon, il y a des chirurgies particulières, par exemple, qui ne sont pas citées.
Même si le dossier semble très technique, il est absolument indispensable, on le redit ici publiquement, puisqu'on a l'occasion de le dire publiquement pour toutes les personnes qui nous entendent, et qui sont trans et qui sont concernées, regardez ça de très près, ne considérez pas que ce sont des choses techniques que vous ne pouvez pas comprendre. Comprenez bien que dans le cadre du protocole ALD trans psychiatrisé, le contrôle qui est en train de se mettre en place est un contrôle qui tend à uniformiser le protocole, les protocoles sur lesquels il y a tant de contentieux.
D'ailleurs, il y a eu en fait au sein de nombreux centres de sécu des mots d'ordre qui ont été donnés, puisque la plupart des centres de sécu de province, s'il n'y a pas de spécialistes locaux, on leur dit vous allez à tel endroit ou à tel endroit. Mmh. C'est-à-dire on nomme en général Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. Et on donne, non, ça s'est arrêté à Toulouse. Et on donne en fait les équipes médicales tant au nid en porte de sortie. Alors bon, des fois, il peut arriver que des personnes vont trouver un médecin qui est un peu expert dont le nom est connu ou qui a un aura ou qui a, on va dire, qui est connu comme, on va le citer, Bernstein, par exemple, c'est un expert national. Donc le mot expert national, c'est une carte de visite. Donc quand vous avez un médecin comme ça, on ne va pas oser vous dire non, c'est pas un spécialiste. Mais autrement, en dehors de ça, si vous prenez un médecin qui n'a rien d'autre que psychiatre, on risque de vous dire non, non, celui-là, c'est pas un spécialiste. Donc c'est un problème. Alors ils sont très cons parce qu'ils sont même prêts à payer les transports aller-retour sur 500 ou 1000 km pour que vous alliez consulter les spécialistes qu'ils ont envie que vous consultiez. Ça va jusque-là.
Alors, ça c'était sur l'aspect protocole ALD. Maintenant, il faut savoir que la réforme de l'an dernier de la Sécurité sociale crée aussi le médecin référent dans le cadre du processus coordonné de soins. Et le plus souvent, enfin, tout le monde ici, tout assuré social, doit choisir un médecin référent, qui est souvent un médecin généraliste.
C'est souvent un médecin généraliste.
Et qui lui-même donc doit organiser, piloter, y compris l'ALD. Alors comment ça va se passer?
Ben là,
par rapport à une équipe trans, protocolaire.
En fait, c'est le médecin qui va orienter le patient vers tel ou tel psychiatre, tel ou tel endocrinologue.
Donc c'est Jean-Jacques Dupont qui va me dire il faut que vous allez voir Dr Cordier.
Pas forcément, justement.
Ah.
C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que le médecin généraliste peut tout à fait prescrire un autre spécialiste. Et l'intérêt, il est là, justement. Et dans ce cas-là, la Sécu ne peut pas aller contre, puisque c'est le médecin généraliste qui dit je vous adresse tel patient, et ensuite le spécialiste va renvoyer, si tu veux, un courrier dans lequel il va dire voilà, je préconise telle chose. Et le médecin généraliste va remplir les demandes d'ALD, etc., en fonction de la lettre du spécialiste plus de la demande du patient.
D'où la tentation de faire de l'entrisme auprès des médecins généralistes.
Tout à fait.
Donc, il ne faut pas hésiter, je pense.
On a intérêt à justement choisir soigneusement son médecin généraliste, à savoir prendre quelqu'un d'ouvert. On aurait intérêt, si on avait un peu de fric, à faire de la publicité ou je ne sais quoi dans les journaux médicaux qui sont lus par les généralistes. Il y en a deux en France, qui sont des quotidiens. En fait, il y aurait vraiment un travail d'information à faire auprès des généralistes en général. Il faudrait en trouver par grande ville, on va dire, quelques-uns, quoi. Déjà, il faudrait commencer par Maillé, mais voilà le rôle que pourraient jouer les associations dans l'ensemble de la France, c'est d'aller voir des généralistes, les démarcher personnellement. Moi, je veux dire, j'ai un généraliste qui est parfaitement ouvert à ces questions-là et qui connaît parfaitement ce qui se passe dans le milieu hospitalier, puisque on en a discuté, elle a son mari qui travaille, etc. Donc, du coup, on a des gens qui sont prêts à nous aider, mais à condition d'avoir l'information, d'avoir peut-être eu aussi des patients qui leur montrent que finalement, on n'est pas fou, quoi. En gros. Hein,
Donc, tout l'intérêt, si je résume ce que tu nous dis,
oui.
À savoir que dans le cas d'une ALD, il faut passer par son généraliste qui pilote l'ALD. Tout l'intérêt à ce que le protocole qui va être adossé à la LD trans ne soit pas les contraintes du protocole Cordier-Gallardard.
Évidemment que ça doit être.
Parce que qu'est-ce qui se passe si demain ce protocole dit 2 ans de suivi préalable?
Ben,
qu'est-ce que fait un médecin généraliste? Il est obligé de tenir compte de ça.
Et il est obligé d'attendre 2 ans avant de que la personne, son patient puisse aller ailleurs.
Donc il y a bien une course à l'échalote entre Cordier et les associations pour imposer, donc dans le cadre du protocole ALD, donc le travail de la Haute Autorité en Santé, que l'accès aux soins, le délai d'accès aux soins, soit celui que lui exige, c'est-à-dire 2 ans minimum.
Et encore, minimum, comme
minimum,
tu dis.
Oui.
On connaît des gens qui ont duré 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il y a des gens qui sont suicidés, il y a des gens qui ont fait des TS et qui se retrouvent maintenant avec des problèmes cardiaques, avec des problèmes qui font qu'ils ne peuvent plus même de prendre de traitement hormonal, par exemple. Je veux dire, je connais des gens qui sont passés par leurs mains et qui sont dans ces états-là. Bon, après, ils ont toujours beau jeu de dire ils ne sont pas concernés. Moi, je suis désolé quand on en est à provoquer...
C'est la porte.
Oui, c'est la porte. Quand on en est à provoquer effectivement des réactions comme ça chez des patients, on se demande quelle est la relation d'aide qu'on instaure. En quoi le psy, dans ce cas-là, il est aidant, puisqu'il finalement, il entraîne son patient à faire des gestes malencontreux pour lui, quoi. Moi, je trouve que de ça, on ne parle pas du suicide. On ne parle pas de... Il n'y a pas de gens qui n'y pensent pas, quoi. À un moment donné, parmi les trans, je ne connais pas une personne qui n'y ait pas pensé au moins une fois. Je ne dis pas qu'il l'ait mis en œuvre, qu'il n'y ait pas pensé. Après, parmi ceux qui l'ont mis en œuvre, il y en a qui ont réchappé et puis d'autres qui n'ont pas réchappé, quoi.
Alors, donc 2006, c'est l'année de tous les dangers, à savoir qu'il faut choisir avec beaucoup de soin son médecin référent. Si on a l'intention de faire une transition ou si on va la commencer.
Oui, il faut vraiment se renseigner, en voir plusieurs éventuellement.
Voilà.
Ça demande peut-être de dépenser un peu d'argent, mais ça vaut le coup peut-être justement en prévision de ça. De ne pas se lancer chez le premier médecin venu et qui va s'avérer homophobe, transphobe, etc.
Voilà, de manière à éventuellement... Vas-y, Vincent.
Juste vite fait, parce que moi, on m'a fait souvent cette remarque en disant « Oui, mais il y a des personnes qui... » les 2 ans sont nécessaires. C'est pas du tout ça qu'on met en cause. Hein.
Non.
On ne demande pas absolument à baisser, mais c'est de partir d'un autodiagnostic et de donner la possibilité aux personnes qui se sentent prêtes avant les 2 ans de ne pas rester poireautées ou dans un état de séquestration avec ce psychiatre qui décide pour vous, alors que le diagnostic est fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 35 minutes, de vous garder pendant 2 ans avant de vous donner accès aux hormones ou aux opérations.
J'allais même plus loin. Enfin, je connais des cas très, très proches de moi, de 2 personnes qui ont eu accès aux hormones sans en passer par la case psy.
C'est-à-dire
que rien n'empêche un endocrinologue, même un généraliste, de prescrire des hormones.
Enfin, je connais des médecins qui ont donné des traitements comme ça, mais ils se sont fait taper sur les doigts quand ça s'est su par ces gens-là.
Oui, mais c'est
le problème. Donc, à l'origine, ces médecins donnaient au premier ou deuxième entretien en fonction de comment la personne était, où elle en était, si elle,
tout à fait donner des hormones sans se faire taper dessus par un...
À condition que lui, il assume, il dise « Ok, prouvez-moi que j'ai fait une faute ». Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de...
Il n'y a rien d'écrit qui oblige à faire
Il n'y a rien, mais le problème, c'est qu'il y a des menaces, que quand ces gens-là dépendent, par exemple, d'un centre, que tu as la direction qui te tombe dessus, il y a tout ça, quoi. Je veux dire, tu as des gens en cabinet qui assument plus. Moi, je vois, il y a un médecin sur la place de Paris, ça fait 20 ans, 40 ans qu'il donne des hormones à tout va. Il n'a jamais eu le moindre problème. Et le nom est connu comme le loup blanc. Je ne citerai pas le nom. Hein.
Choisissez avec beaucoup d'attention votre médecin généraliste. Faites vraiment attention à la réforme de la sécurité sociale. Elle comporte un risque d'enfermement psychiatrique dans un protocole contraignant, un vrai danger. Donc ne prenez pas ça à la légère, il s'agit de votre vie et on va espérer que les négociations qui vont avoir lieu vont pouvoir obtenir autre chose que ce protocole Cordier, Galarda, étendu à l'ensemble des médecins généralistes, qui seraient à ce moment-là les soldats des équipes protocolaires.
Oui, ils auraient réussi leur coup pour le coup. Hein.
Donc il y a un vrai danger.
De faire appliquer par eux leurs règles, par d'autres leurs règles. Ce serait pas mal dans le genre.
Je précise juste que savoir égale pouvoir.
Yes.
Donc ça paraît fondamental que les associations se forment à ces questions-là, mais que toutes les personnes trans se forment à ça. C'est-à-dire, ce sont nous les experts, il s'agit de nos vies, de nos corps. Alors, on a je crois quelques minutes encore, je ne vois pas trop l'horloge.
Il est 27, 28.
Bon, on a encore 3 minutes. Pour parler des enjeux de ce qui va se passer avec la Haute Autorité en Santé, et notamment de l'application, parce que les associations ne vont pas sans rien à la Réunion Il y a aussi des propositions alternatives qui sont faisables.
Bah, disons qu'il existe sur le plan international ce qu'on appelle les standards of care, qui sont des guides, des sortes de conseils de suivi, d'aide aux patients, alors destinés aux professionnels de santé, pour s'occuper de personnes trans et intersexes. Bien que ce soit assez peu cité dans le lot, les intersexes, mais enfin, ça en fait un peu partie. En tenant en compte absolument tous les cas de figure, moi, ce que j'ai pu avoir, rencontrer, je trouve que tout est pris en compte, quoi. Mais ceci dit, c'est perfectible, c'est la sixième version, ils évoluent avec le temps. Certes, c'est fait aux États-Unis, mais il y a de nombreux professionnels de santé qui sont de par le monde, et il y a des trans aussi qui sont devenus professionnels de santé, que ce soit des chirurgiens, des psychothérapeutes qui se trouvent dans cette, et puis des juristes dans cette association qui s'occupe de ça, quoi.
Et qui fait donc le congrès annuel,
non biannuel,
de la HBILDA.
C'est ça.
Harry Benjamin,
alors ça a été créé à l'époque effectivement d'Harry Benjamin. À l'époque, justement, où lui-même, il n'y avait pas de psychiatrisation, où il donnait des hormones, et où il n'y avait pas de psychiatre qui s'occupait de ça, quoi. C'était en direct.
Et bien voilà, Bistouri, oui, pour le mois de janvier, c'est fini. La prochaine émission aura lieu le 16 février à 19h30.
Et nous ne savons pas qui nous auront comme invité.
Mais vous aurez la surprise sur le site de la radio, donc bistouri.free.fr. Merci Maxime, merci Tom, merci Vincent, merci Alana.
Merci à tout le monde.
Et puis à bientôt avec Bistouri.